Et nous parlerons ensemble de la situation au Mali.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est incontestable, on assiste à la résurgence des djihadistes dans le nord du Mali. Voilà le constat dressé il y a quelques jours par le responsable des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Nous allons évidemment en parler durant les 20 prochaines minutes, d'autant qu'Hervé Latsous affirme qu'ils ont repris, je le cite, du poil de la bête face à la réduction de la présence des forces françaises, mais aussi face à l'absence de l'armée malienne dans cette partie du pays. Du coup, il n'y a pratiquement plus que les casques bleus sur le terrain. Ces dernières semaines, les attaques contre la MINUSMA sont devenues monnaie courante. 10 casques bleus ont été tués depuis le début du mois et une centaine ont été blessés, le plus souvent par des mines ou des engins explosifs artisanaux. Les civils sont également victimes de ces attaques. Alors êtes-vous surpris par le retour des djihadistes qu'on disait repliés, notamment dans le sud de la Libye après l'opération Serval? Comment sécuriser le nord du Mali? Vous nous rejoignez évidemment 33 9 693 693 70, 33 9 693 693 70 si vous nous appelez de l'étranger. Beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission et j'ai envie de dire que la très grande majorité, si ce n'est pour dire peut-être toutes, vont dans le même sens, à savoir que personne de ceux qui nous contactent en ce moment n'est surpris par le retour des djihadistes. C'est votre cas, Idrissa, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi vous n'êtes pas surpris par le retour des islamistes armés dans le nord de votre pays?
Oui, merci bien, Juan. Je suis pas du tout surpris parce qu'en réalité, ces gens-là, ils sont jamais partis. Ces gens-là, ils ont changé de tactique, mais ils sont toujours restés sur place. Surtout qu'ils bénéficient de la complicité grandiose de certains mouvements dont certains sont allégés aujourd'hui en train de négocier la paix. Au fait, les djihadistes, c'est qui? Ben, aujourd'hui, quand vous regardez le HCUA, je vais même citer des noms. Al-Gabbas Agantala, Sheikh Agawaisa, qui était numéro 2 dans Sardine, Malik Agawainasset, Haroun Saïd, Bamoussa, pour ne parler que ceux-ci, qui sont aujourd'hui HCUA pour être présentables politiquement. Ben, ça, c'est des gens qui étaient en Sardine hier à Kni, hier à même Al-Qaïda.
En Sardine, un groupe qui a fait allégeance à Kni, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le HCUA, c'est le Haut Conseil pour l'Unicité de la Zawad, c'est effectivement l'un des groupes qui est en ce moment à Alger, aux côtés du gouvernement malien pour tenter de trouver un accord de paix. Ça veut dire que, pour vous, aujourd'hui, Idrissa, il y a clairement des connexions entre ceux qui sont à Alger et qui disent vouloir la paix et les djihadistes qui ont les armes sur le terrain.
Mais vous l'avez dit, je ne vous prête pas le mot, mais effectivement, il y a des connexions, moi je dirais même des complicités. Et quelque part, il y a certaines forces sur place qui laissent faire. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont besoin de ces gens-là. Mais en tout cas, c'est à notre détriment. Aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et je pense que franchement, c'est connu, en tout cas ici au Mali, et pour ceux qui sont proches vraiment des événements, ils savent que il n'y a pas à s'étonner, quoi.
Ouais. Alors ne raccrochez pas, Idrissa. On accueille l'un de vos compatriotes également dans la capitale malienne, Djibril. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous n'êtes pas surpris par le retour des djihadistes?
Non, je ne suis pas du tout surpris par le retour des djihadistes pour la simple raison que la situation n'est ni maîtrisée par l'AMINUSMA, ni par l'armée malienne, ni par la nouvelle force française qui est actuellement au nord. Donc certes, la plupart ont été chassés du nord après l'intervention de Serval, mais il y a encore des petites poches de résistance qui font perpétrer des attentats via les agents à quatre roues. Et récemment, j'ai appris qu'ils utilisent les motos pour faire ces attentats.
Oui, effectivement, ils utilisent de plus en plus les motos, puisque les 4x4 sont effectivement facilement repérables. Du coup, une opération anti-moto a d'ailleurs été lancée il y a quelques jours à Kidal. Et dans la région, je crois que 150 motos ont été saisies pour éviter effectivement de limiter au maximum les attaques contre les convois de la MINUSMA. Djibril, que faut-il faire aujourd'hui? Vous disiez, Serval c'est terminé. Vous regrettez effectivement que Serval soit terminé?
Bon, je ne regrette pas que Serval soit terminé, mais en fait, Serval n'a pas abouti à ce que les Maliens attendaient. Parce que quand nos forces voulaient s'emparer de Kidal après la libération de tout le Nord, bon, ils ont été freinés par l'armée française. Bon, on ne sait pas pour quelles raisons, est-ce qu'il y avait des agents politiques ou économiques qui étaient en jeu. Moi, j'ignore, et comme beaucoup de Maliens aussi, ignorent pourquoi cet arrêt. Mais la solution aujourd'hui, pour moi, ça passe au préalable par l'accord qu'il faut trouver avec les MNLA, qui fut à l'origine de toute cette crise économique et sociale, sécuritaire que le pays a connue aujourd'hui. Et à travers, une fois cet accord trouvé avec l'aide des alliés et tels que la France et les autres pays de la sous-région, on pourra éradiquer ces problèmes.
Oui. Le MNLA, le Mouvement National de Libération, Idrissa, vous lanciez le débat il y a quelques instants. Est-ce que, comme Djibril, vous diriez que les soldats français de l'opération Serval ne sont pas allés jusqu'au bout et que voilà, ils se sont retirés, même s'ils sont encore présents, mais là ils sont présents, mais d'une façon plus régionale, hein, puisque ils ont mobilisé plus de soldats, mais ils sont déployés dans plusieurs pays, le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, donc c'est vraiment lutter contre le terrorisme au Sahel, au sens large, vous voyez du terme, et non simplement sur le Mali. Vous regrettez, vous, la fin de l'opération Serval, Idrissa ?
On le regrette, parce qu'on a l'impression que c'est moins d'engagement. Mais la réalité, c'est que effectivement, Serval, aussi bien que Barkhane, sinon Minusma aujourd'hui, qui sont en train d'utiliser les gens de MNLA comme des véritables supplétifs de l'armée française, je dis le mot, ben on ne sait pas à quel jeu ils jouent. Si on veut résolument lutter contre le terrorisme, les gens-là ne sont pas très fréquentables jusqu'à ce niveau. En fait, des collaborateurs et collaborer et évoluer avec eux sur le terrain.
On va donner la parole à d'autres auditeurs. Idrissa, merci. Merci également à Djibril, tous les deux. Vous nous appeliez de Bamako, 339-693-693-70. Bonjour Noël.
Oui, bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Vous nous appelez d'Abidjan. Vous n'êtes pas malien, mais vous suivez de près la situation au Mali. Car vous êtes inquiet et vous regrettez, c'est ce que vous avez dit au Standard, que la France ait mis fin à l'opération Serval.
Tout à fait. Voilà pourquoi je disais tantôt que je ne suis pas surpris du retour de ces groupuscules djihadistes dans le nord du Mali. Tout simplement parce que il y avait encore des poches de résistance quand l'opération Serval a pris feu. Bon, enfin, quand ils ont commencé à réduire l'effectif. Donc voilà, donc je ne suis même pas surpris de leur retour. Voilà, il fallait s'y attendre.
Mais alors, qu'aurait dû faire, excusez-moi Noël, qu'aurait dû faire la France? Quand vous dites qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout, ne pas mettre un terme à l'opération Serval, ça signifie quoi exactement?
Pas mettre un terme à l'opération Serval. Tout qu'on fait, c'est une opération temporaire. Ça va être qu'on fait dans le temps. Seulement, je voulais dire qu'il fallait d'abord miser plus la formation des militaires maliens. Il fallait les former de façon conséquente à se préparer en fait à l'après-Serval. Et c'est ce qui n'a pas été fait, c'est ce que je déplore. Il fallait s'assurer d'abord que l'armée malienne est prête à garantir l'intégrité du territoire national avant de stopper l'opération.
Ouais, l'armée malienne qui est en pleine restructuration, il faut quand même le rappeler, en pleine reconstruction, il faut dire clairement les choses, elle n'a pas à l'heure actuelle les moyens d'assurer la sécurité dans le Nord. Kanté, vous êtes malien, vous nous appelez de la région parisienne, bonjour Kanté.
Bonjour Monsieur Wan.
Est-ce que comme Noël à l'instant, qui nous appelait d'Abidjan, vous regrettez que l'armée malienne n'est pas à sa disposition suffisamment d'éléments et de matériel pour lutter contre les terroristes?
Tout à fait, c'est très regrettable. Tant plus que Monsieur Wan, je pense que le problème qu'on assiste aujourd'hui, moi personnellement, ça ne m'a pas surpris. Parce que pourquoi? Vous souvenez que toutes les zones du Nord aujourd'hui, qui sont les zones de Kidal, qui sont occupées par MNLA, il n'y a aucune absence force malienne. Donc c'est ces zones-là, comme par hasard, qu'il y a deux retours de ces islamistes. Donc pour moi, ce sont de collaborateurs des MNLA.
Donc, pour dire trivialement les choses, Kanté, vous mettez dans le même sac MNLA et djihadistes, ce que font d'ailleurs depuis le début de cette émission plusieurs auditeurs.
Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Ils ont toujours coopéré ensemble, qu'ils soient directement ou indirectement, depuis que qu'ils ont sorti les armes malaises dans ces zones-là. Ben, c'est là qu'on en constate des retours. Tous les jours, on entend que des retours d'islamistes. C'est pas surprenant. Donc, ils sont toujours travaillés ensemble, ils continuent à travailler ensemble, qu'ils soient directement ou indirectement. C'est que je déplore que la présence militaire française dans cette zone-là et la présence militaire onisienne dans ces zones-là, mais qu'ils ne voient rien venir. Donc, ça nous étonne beaucoup. Que l'armée malienne, qu'on n'a pas de moyens, mais quand même, on a eu là-bas de l'ONU qui sont là pour nous aider, justement, parce qu'on n'a pas de moyens pour sécuriser nos frontières. Qu'est-ce qu'ils font? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut donner les moyens des armées maliennes et désarmer et mener là sans condition.
Enfin, c'est comme vous dites, l'armée française et les casques bleus déployés dans le nord du Mali ne sont pas capables de sécuriser au mieux le nord du pays. Est-ce que vous pensez sérieusement, même en donnant des moyens à l'armée malienne, que cette même armée est capable de faire le job, enfin de faire le travail?
Tout à fait. Honnêtement, Juan, c'est l'armée malienne a des moyens adéquats aujourd'hui. Elle a des moyens de sécuriser ses frontières, mais en condition que les MNLA et il accepte déposer des armes sans condition. Comment, sinon, et tout, impossible de résoudre le problème. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, combattre les MNLA, en même temps, affronter les islamistes. On ne peut pas attaquer deux fois en même temps, on n'a pas ces moyens. Donc, mutualiser des efforts entre les éléments des MNLA qui ont quand même coopéré avec ces gens-là, qui d'abord, toutes les sources aujourd'hui, je pense que c'est pour les MNLA.
On a compris votre position sur le MNLA. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Il y a beaucoup de monde au standard. Mamadou, peut-être également, malien, habitant à Brazzaville. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour tous les auditeurs des RFI.
À l'instant, Kanté, l'un de vos compatriotes de la région parisienne, disait qu'il fallait donner plus de moyens éventuellement à l'armée, mais aussi que la MINUSMA, que les casques bleus soient plus offensifs. Il faut que les casques bleus soient plus offensifs?
Absolument, parce que moi je pense que les forces onisiennes dans le nord du Mali sont vraiment trop faibles. Il faut changer leur mandat pour qu'ils soient plus offensifs. On a vu ici en RDC, dès qu'on a changé le mandat des forces des Nations Unies, le résultat est là. Aujourd'hui, vraiment, on assiste à un retour de la paix dans le nord Kivu. Donc je pense qu'il faut changer carrément le mandat de l'ONU dans le nord du Mali pour qu'il soit plus offensif, organiser des patrouilles ensemble avec l'armée malienne, donner des moyens, comme mes prédécesseurs l'ont dit, à l'armée malienne. Moi, je pense que l'armée malienne a des hommes aujourd'hui valables. La preuve à Kati, le président Ibeka a montré la preuve à Kati, parce que la jeune qui se croyait super armée a été désarmée et a quitté le camp de Kati. Alors, tout le monde l'a vu. Donc, ce n'est pas les hommes qui nous manquent.
Oui, le camp de Kati qui se trouve dans la banlieue de Bamako et qui était une caserne d'où sont partis les putschistes qui ont renversé le président Amadou Toumani Touré. Vous parliez du mandat de la MINUSMA. Vous parliez du mandat de la MINUSMA. J'ai le souvenir des propos tenus par Hervé Latsous sur notre antenne il y a quelques mois. Et il disait que le rôle de la MINUSMA n'était pas de combattre, mais de faciliter une sortie de crise politique. Nous sommes là, disait-il, pour aider, mais évidemment, c'est d'abord aux Maliens de céder les premiers.
Allô?
Oui. Alors c'était pour vous interpeller, mais
voilà,
si la réaction, ouais, si les propos d'Hervé Latsous ne vous suscitent aucune réaction, il n'y a pas de problème. Ouais. Simplement, voilà, la MINUSMA n'est pas là pour combattre, elle est là pour aider les Maliens et sortir de la crise.
Oui, par rapport à ça, si Hervé Latsous l'a dit, nous, moi je me sens d'abord trahi en tant que Malien, parce que moi j'ai fait partie des gens qui ont marché dans les rues de Bamako pour appeler les Nations Unies ce jour-là. Au monument de l'indépendance. Si il nous dit ça, moi je me sentirais trahi, parce que moi au départ, je pensais que les forces des Nations Unies sont là pour combattre, aider l'armée malienne à combattre les groupes armés. Certes, après quand ils sont venus, on a vu que quand l'ONU s'est interposée avec l'armée malienne entre les autres groupes là, on a senti cela. Nous, on pense que l'ONU doit changer son mandat si tel n'est pas le cas, sinon on se sentira.
Donc changement de mandat de la MINUSMA, c'est ce que vous réclamez, Mamadou. Merci à vous. 33 9 693 693 70. Vous parlez tous de la situation dans votre pays avec beaucoup de passion, on le sent et on comprend évidemment. Adama, vous êtes à Bamako, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, Adama.
Je pense que pour plus de sûreté au nord du Mali,
Il faut que l'armée malienne revienne sur place parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est seulement la MINUSMA qui est là et surtout avec les soldats tchadiens.
Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à vous comprendre. Vous dites, il faut que l'armée revienne.
Il faut que l'armée malienne reprenne ses places. Ouais. Il faut que l'armée malienne reprenne ses places au niveau du nord. Nous savons que par le passé, il y avait beaucoup de camps militaires qui étaient placés, qui étaient créés pour assurer de sécurité dans la zone. Actuellement, ceci n'existe pas. Mmh. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est la MINUSMA qui est là. C'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de décès pour ce qui est des soldats tchadiens.
Les soldats tchadiens, j'ouvre une parenthèse, qui sont finalement en première ligne face aux djihadistes, d'où le coup de gueule, le point sur la table, tapé la semaine dernière par le gouvernement tchadien, qui dit si vous ne prenez pas de mesures dans les prochaines semaines, nous tirerons les conséquences. Donc peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que les tchadiens peuvent se retirer de la MINUSMA. En tout cas, effectivement, de nombreux morts parmi le contingent tchadien depuis qu'ils sont présents dans le nord du pays. Est-ce qu'il faut donner davantage de moyens justement aux casques bleus ?
Il faut donner davantage de moyens aux casques bleus, mais j'estime que les casques bleus doivent être là de façon temporaire. Leur relève doit être assurée par l'armée des pays voisins, étant donné que c'est une zone dont la sécurité touche beaucoup de pays. Donc ces pays doivent s'organiser en conséquence pour cette zone qui se trouve au niveau du Mali, notamment l'Algérie, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et peut-être dans une moindre mesure le Sénégal. Donc ça doit être une zone où tout le monde doit pouvoir s'investir. Pas les casques bleus, tout le monde sait que les casques bleus ne seront pas là pour toujours.
Oui. Voilà. Merci à vous, Adama. Merci de votre analyse. Alain est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes à Bamako. On vous écoute.
Oui.
Allô, allô, Alain. Êtes-vous
là? Oui, allô.
On vous écoute. Vous êtes à l'antenne, Alain.
Ok, en fait, je ne vais pas répéter mes prédécesseurs, mais en fait, j'avoue effectivement que la recrudescence de la violence ne s'explique pas la reprise des pourparlers en Algérie. Mmh. Il faudrait donner les moyens à l'armée malienne pour combattre ces djihadistes-là. Et au fait, parce que le MLA se voit dans une position de force, c'est ce qui a amené tout ce problème-là. Moi, je pense qu'il faut aider l'armée malienne.
Vous avez l'impression, excusez-moi Alain, j'essaie de bien comprendre votre analyse, qu'en ce moment, le MNLA est en position de force dans les négociations à Alger avec le gouvernement malien. Et donc, du coup, il facilite les djihadistes sur le terrain ?
Exactement, parce qu'en fait, si vous remontez un peu l'histoire des djihadistes, là, c'est à travers les MNLA qui sont venus.
Oh là, oui.
Mmh. Et je pense bien qu'il faut mettre fin à ça et que la France...
Bon, on vous perd. J'ai plus le décodeur là pour vous décrypter. Je suis désolé, mais on est tributaire des réseaux téléphones et voilà, ça arrive parfois. Merci à vous, Alain. Fofana est avec nous de Kaï. Bonjour, Fofana.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Il faut mieux impliquer l'État malien.
Moi, je pense que c'est ça. Si on veut vraiment trouver une solution durable, une solution réelle à ce problème, cela ne peut pas se passer sans l'État malien. L'État malien doit être impliqué et doit être même le premier acteur. Dans ce sens-là, on doit mettre les forces de sécurité malienne au cœur du dispositif, mais tout dispositif qui oubliera l'État malien, à mon avis, est voué à l'échec.
Pourquoi ce n'est pas fait, Fofana? Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi l'armée malienne n'est-elle pas au nord?
Oui, moi je pense que ça c'est dû c'est depuis le tout début de l'intervention de Serval. Parce que quand Serval est intervenu, ils ont quand même laissé l'armée malienne à Gao et Tombouctou pour aller tout seul à Kidal. Du coup, ils ont fait du MNLA un acteur clé de la solution. Mmh. Alors que malheureusement, le MNLA se trouve être la source même du problème. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, on légitime le MNLA et en faisant en sorte que Barkhane, MNLA et MINUSMA se concertent sans l'État malien. C'est une façon de rendre réelle la partition de notre pays, parce qu'à mon sens, Kidal n'est pas un pays à part. Par conséquent, le MNLA n'a aucune légitimité. Mmh. Il faut non seulement impliquer l'État malien, mais aussi les populations. Parce que les populations se trouvent être aujourd'hui, à mon sens, prises en otage, en ce sens qu'ils n'ont même pas le choix, les populations ne peuvent plus s'exprimer. On fait comme si les populations se reconnaissent dans le MNLA, ce qui n'est pas fondé.
Effectivement. On aura l'occasion de prolonger ce débat, certainement vendredi dans la Libre Antenne. On est obligé d'arrêter là.